BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, ce week-end, eh bien, encore une très grosse levée de fonds, plus de 350 millions de dollars levés par Mano Mano. La marketplace de bricolage et de jardinage poursuit sa très forte croissance en France, en Europe, ainsi que sur le marché des professionnels. Nous parlerons également de deux entreprises sous les feux de l'actualité. Tout d'abord, le groupe Jouve qui vient de remporter le marché américain du traitement de dossiers de brevets. Pas évident de s'implanter outre-Atlantique quand on est une ETI française. Et puis nous reviendrons sur la victoire également de Moby Travel en finale de la BFM Academy. Il s'agit d'une plateforme de réservation de vacances pour les personnes souffrant d'un handicap. Enfin, autre lauréate d'un concours de start-up, Circouleur, une entreprise très innovante de recyclage des peintures qui a été désignée coup de cœur de la fabrique Aviva. Et une de ses fondatrices, sa fondatrice même, Maïlys Gros, est en plateau avec nous dans La France a tout pour réussir. On va commencer donc par le témoignage toujours très enthousiaste et enthousiasmant de Marc Simoncini, le célèbre fondateur de Mythic, était notre invité il y a quelques jours à l'occasion d'une nouvelle version de son vélo connecté Angel, fabriqué en partenariat industriel avec le groupe Seb. Mais Edwige Chevrillon l'a aussi interrogé sur les levées de fonds et les licornes qui se multiplient actuellement en France. Écoutez donc le point de vue de Marc Simoncini sur le sujet.
Il y a incroyable, un nombre de levées de fonds
incroyable.
Incroyable. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est bon signe?
Bah, c'est un excellent signe. Ça veut dire que d'abord, la France est un pays attractif. La France est un pays dans lequel les entrepreneurs se lancent, ont des idées, ont des projets qui marchent. On commence à avoir des tas de licornes françaises qui étaient extrêmement rares à l'époque. Donc, on a un pays dans lequel les structures se sont mises en place pour permettre l'éclosion d'un écosystème qui fonctionne. Ça fait pas très longtemps qu'on a une volonté politique majeure d'aider les entrepreneurs à réussir dans ce pays. Aujourd'hui, c'est le cas. Ça porte ses fruits. On voit très bien que toutes les mesures qui ont été imaginées et mises en place sont un terreau formidable pour les startups. Mais la France est un pays formidable aujourd'hui en termes d'infrastructure, en termes de fiscalité et en termes d'aide avec la BPI et d'ouverture d'esprit. De général, ça a fait un appel d'air phénoménal et donc les entrepreneurs s'y sont engouffrés.
Le grand défi, là, c'est ce que m'expliquait maintenant la présidente de la Bourse de Paris, c'était de dire les levées de fonds, c'est formidable, mais il faut des introductions en bourse. Ouais, disait aussi Cédrico. Il disait il faut qu'on réussisse l'introduction de Believe. Il faut qu'il y ait des succès en bourse. Vous êtes d'accord?
C'est-à-dire que si en fin de chaîne, vous avez les grands groupes qui n'achètent pas des start-up, et que c'est les Américains qui viennent d'acheter les startups françaises, l'alternative, c'est qu'on ait un écosystème qui aille jusqu'au bout et qu'on puisse mettre les startups françaises en bourse, en France, pour continuer leur développement. Ça, c'était un des énormes problèmes de l'écosystème. C'est en train de changer. Et il y a un deuxième problème que je prends de plein fouet, c'est qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui de dispositif équivalent pour des gens qui fabriquent des objets, du hardware, des projets industriels. La start-up industrielle en France, ça n'existe pas. Et donc ça, c'est peut-être le prochain chantier à mettre en place. C'est que c'est bien beau de faire des start-up virtuelles, mais peut-être que si on veut réindustrialiser la France, il faut imaginer des systèmes comparable au digital pour des startups de type industriel.
Et on va d'ailleurs parler à présent d'une célèbre marque qui fait beaucoup travailler les industriels en France, mais aussi bien au-delà, c'est Mano Mano. La place de marché lancée il y a maintenant 8 ans réussit jusqu'ici un parcours quasi sans faute. Et la dernière levée de fonds annoncée cette semaine, 355 millions de dollars, lui permet d'accéder officiellement au statut de licorne. Alors cet apport va permettre d'embaucher environ 1000 personnes en un an et de développer l'activité. Mano Mano compte déjà plus de 7 millions de clients répartis dans 6 pays d'Europe. Dans un instant, on va écouter Christian Resson, l'un des cofondateurs de l'entreprise, mais tout d'abord un rappel des ambitions de Mano Mano avec Virginie Cook.
Mano Mano renforce encore plus sa position de leader sur le marché du bricolage, de la maison et du jardinage en ligne. Avec 10 millions de références et 3600 marchands fédérés, le site européen créé en 2013 s'est rapidement fait un nom. Le groupe sort même renforcé de la crise grâce à un engouement mondial pour le bricolage exacerbé pendant les confinements. Plus 100% de croissance l'an dernier, le groupe a engrangé 1,2 milliard d'euros de volume d'affaires. L'objectif de cette nouvelle levée de fonds, accélérer son expansion européenne, en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni, les deux plus gros marchés européens, et aussi en Espagne et en Italie pour son offre B2B. Mano Mano s'adresse à un marché de 400 milliards d'euros qui dispose seulement de 11% 5% de pénétration digitale. Le potentiel de croissance pour le site est donc immense. Pour atteindre ses ambitions, ManoMano prévoit de doubler ses effectifs en recrutant 1000 nouvelles personnes d'ici à la fin de l'année prochaine.
Nous, on a un plan d'embauche de 1000 personnes.
Ouais. 1000 personnes cette année.
Exactement, on est 800 personnes. Aujourd'hui, 800 personnes qui ont un peu souffert vu notre croissance l'année dernière, puisqu'on a doublé de taille, comme vous le disiez. Donc, je les remercie encore ce matin. Mais donc, on va renforcer les équipes, donc de 1000 personnes jusqu'à 2022
pour quel pouvoir aller. Avec quel profil vous allez les renforcer?
50% plutôt tech, donc ouais. Des développeurs, de l'IA, des ingénieurs, et 50% plutôt de business, soit en marketing, en commercial, pour aller chercher des partenaires, parce qu'on est une place de marché.
Ouais.
Notre métier, c'est de mettre en relation nos 7 millions de clients aujourd'hui avec nos 3600 marchands. Donc c'est bien ça, cette mise en relation qui est importante pour nous.
On voit que chez ManoMano, vous avez c'est step by step. Hein. Vous avez commencé par le B2C, là vous attaquez le B2B qui fait moins de 10% de votre activité, qui doit en faire 50, les pays les uns après les autres. Les États-Unis, on n'en parle pas, c'est peut-être dans 10 ans. Votre business plan, il est extrêmement précis et pensé. Hein.
Je pense que ce qui tue les jeunes entreprises, c'est essayer de vouloir tout faire et de courir après plein d'opportunités. Le marché, vous le disiez, il y a des services, il y a de la vente, on peut tout faire, on aurait pu tout faire, ouais. et brûler beaucoup d'argent et d'énergie de nos équipes. Et donc on essaie de prioriser ce qu'on fait et on essaie de le faire bien. Mais c'est vrai qu'il faut y aller step by step pour pas s'essouffler.
Et voilà une entreprise qui sait précisément ce que c'est que d'avancer pas à pas. C'est Jouve. Jouve, c'est historiquement une imprimerie créée en Mayenne en 1903 et qui a beaucoup diversifié ses activités, notamment dans la gestion automatisée des brevets, dont elle vient de devenir leader mondial grâce à un contrat remporté avec le gouvernement américain. Un contrat sur 10 ans qui va permettre de créer de nombreux emplois en Mayenne, mais aussi dans la filière américaine qui a été créée par Jouve. Dans un instant, on va écouter Thibault Langsade, c'est le PDG de Jouve, mais tout d'abord, les détails de ce méga contrat américain avec Raphaël Couder.
C'est un contrat majeur que vient de remporter Jouve. Sur les 10 prochaines années, le groupe va traiter les brevets américains de leur dépôt jusqu'à leur publication en passant par leur examen. Le tout en utilisant sa technologie d'intelligence artificielle capable de gérer de façon automatisée 8000 brevets par semaine. Une technologie qui a séduit les autorités américaines. C'est la première fois que l'USPTO, l'Office fédéral chargé de la propriété intellectuelle, attribue un tel contrat à une entreprise française. Jouve bénéficie désormais d'un marché qui pourrait s'élever à 1,4 milliard de dollars, un immense coup d'accélérateur pour cette ETI dont le siège historique se situe toujours en Mayenne. Jouve va ainsi créer 150 nouveaux emplois en France et près d'un millier aux États-Unis. Au-delà, ce contrat propulse le groupe en position de leader mondial du traitement automatisé des brevets, un rayonnement dont il compte bien se servir pour conquérir de nouveaux marchés dans ses autres secteurs d'activité comme la banque, l'assurance ou la santé.
C'est incroyable, dans un domaine qui relève de la souveraineté, hein, les brevets, les inventions, que le gouvernement américain ait choisi une entreprise française. Au moment où nous, en Europe, on s'interroge justement sur la souveraineté, est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas la solution américaine, ou est-ce que c'est parce qu'avec votre nom là-bas, Flight Iron Solution Corporation, vous les avez leurrés?
Alors, on les a pas leurrés, parce que je pense que le gouvernement américain ne les leurrait pas, et quand il regarde l'entreprise, il la regarde et il la décortique.
100% français, on est d'accord. Hein.
Oui, mais les Américains sont très pragmatiques. Les Américains, ils disent, est-ce qu'ils ont la techno? Et à partir du moment où vous avez la techno, ils vous mettent une batterie de règles qui fait que la donnée ne peut pas sortir du territoire américain. Il y a des endroits où on va traiter de la donnée, où même moi, patron de Jouve, je n'aurai pas accès parce que je ne suis pas citoyen américain. Et donc les Américains, ils sont extrêmement pragmatiques, ils regardent si vous êtes en capacité de pouvoir résoudre le problème, et après ils protègent, ils cadenassent la donnée qu'ils vous demandent de transformer.
Alors ce contrat, vous allez devoir monter en puissance aux États-Unis, ça veut dire beaucoup d'embauches pour Jouve?
Alors, c'est à peu près 150 personnes en France pour construire la plateforme.
Ah oui.
Et puis après, c'est 1000 personnes, on va dire, aux États-Unis, qui va assurer là où les algorithmes ne savent plus fonctionner.
C'est-à-dire que vous doublez d'effectifs, en gros.
On va doubler d'effectifs.
C'est chaque année, depuis plus de 15 ans, un événement très attendu sur BFM Business et la BFM Academy. L'édition 2021, la 16e, a donc été remportée lundi dernier par Moby Travel. Moby Travel, c'est une plateforme de réservation de sites de tourisme pour les personnes en situation de handicap, que ce soit pour des vacances, c'est l'essentiel de leur activité, ou que ce soit pour des déplacements professionnels. On va donc revivre l'annonce de la victoire de Moby Travel, annonce par Laure Clausier, et juste après l'interview de son fondateur, Lucas Gebhardt, invité dès mardi matin. Il a très peu dormi, invité mardi matin donc de Good Morning Business avec Christophe Jakubizine et Sandra Gandoin.
Le lauréat 2021 de la BFM Academy saison 16 est Moby Travel, Lucas Gebhardt.
C'est donc Lucas, un très très grand bravo à Lucas qui remporte cette saison 16. Vous pouvez lui donner son trophée. On serait dans une situation sanitaire normale. On se jetterait les uns sur les autres, bien sûr, mais la crise sanitaire nous empêche. Lucas, un très grand bravo. 54%, c'est une très très large victoire. Bravo à vous.
Merci, merci à tous nos clients qui ont voté pour nous. Nous, on est lyonnais, on est aussi du Beaujolais, donc on a un très fort ancrage local. Merci à tous pour votre soutien et pour votre aide. Et on espère qu'on va réussir à se développer comme on vous l'a dit, comme on vous l'a promis, parce que tout le monde a besoin de nous.
Bon, bravo. Et puis ensuite, je pense que si vous avez gagné, parce que pour avoir travaillé votre dossier, d'avoir regardé le business model, il est extrêmement fouillé, pertinent. C'est-à-dire que non seulement vous vous adressez effectivement à tous ces Français et bientôt Allemands, Anglais, qui ont un handicap particulier, qui veulent voyager, qui payent beaucoup, beaucoup plus cher que les autres pour l'instant et qui sont mal servis par les plateformes existantes. Mais en plus, vous avez développé un business model qui s'adresse aussi aux entreprises, par exemple, dans le cadre de la RSE, bien évidemment, à leurs salariés qui ont un handicap particulier, qui doivent être envoyés en mission pour un, deux ou trois jours, et qui souvent ne trouvent pas les solutions. Vous offrez toutes ces solutions clés en main sur votre plateforme.
Les étapes ont été plutôt difficiles au début, puisque quand j'ai lancé, j'étais étudiant et tout seul. J'ai eu la chance d'être financé par la fondation de la MAF, qui nous a donné 30 000 euros pour commencer. Et ensuite, on a pu démarrer l'activité début 2018. Et depuis, c'est une très belle croissance. Le Covid nous a un petit peu freiné, mais on a justement travaillé sur notre offre pendant le Covid. Au début du Covid, on est à 5 000 offres. Fin du Covid, on est à 30 000 offres, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir vraiment exploser en termes de nombre de réservations. On a aujourd'hui, vu le volume qu'on a, plus de limites sur les réservations, ce qu'on avait avant Covid.
Le potentiel pour vous est énorme. 80% des personnes à mobilité réduite en Europe ne partent pas en vacances. Pour le moment, votre activité B2C est la plus importante. J'imagine que vous allez essayer de rééquilibrer les deux aspects avec le B2B.
Complètement. On a lancé le B2B il y a 6 mois environ.
Oui.
Ça fonctionne très très bien. Et donc maintenant, on s'adresse à toutes les entreprises, que ce soit des PME ou des grands groupes. On leur propose une solution de voyage d'affaires qui est uniforme, peu importe la mobilité de leurs collaborateurs. Et on a allié à tout ça notre côté éco-responsable, parce qu'on a de fortes valeurs dans l'entreprise. Donc pour chaque réservation qui est effectuée, on plante un arbre pour amorcer une décarbonation du voyage d'affaires.
Vous faisiez partie du casting de Lyon, de la BFM Academy. Lyon, vous êtes implanté où précisément là?
Alors nous, on est à Villefranche-sur-Saône, donc juste à côté de Lyon.
Exactement. Et vous, à quoi ressemble votre entreprise aujourd'hui? Vous êtes combien? Vous allez recruter?
Alors oui, c'est prévu. Aujourd'hui, on est 13 collaborateurs. On a 5 développeurs, parce que techniquement, c'est quand même assez, c'est quand même assez compliqué de se connecter à tous les hôtels qu'on propose. Et on va recruter. Donc là, on est à la recherche de profils plutôt commerciaux pour aller développer justement ce marché du voyage d'affaires auprès de PME ETI.
Et j'ajoute que Moby Travel, en tant que lauréat de la BFM Academy, comme tous les autres lauréats, va bénéficier de 150 000 euros de campagne publicitaire sur les antennes du groupe Altis Media, dont fait partie BFM Business. Et on va revenir d'ailleurs sur le parcours d'un ancien lauréat de la BFM Academy, c'est WeMaintain, lauréat il y a 3 ans, c'était donc en 2018. Que de chemin parcouru depuis. La start-up qui a, comme on dit, disrupté le marché de la maintenance des ascenseurs, vient de réaliser sa 3e levée de fonds, 30 millions d'euros, ce qui va lui permettre, après la France et après le Royaume-Uni, de s'attaquer à un autre marché colossal, beaucoup plus colossal, celui de l'Asie. Autre point important, WeMaintain a largement élargi son offre. Désormais, elle propose, en plus de la maintenance des ascenseurs, la prise en charge des portes d'immeubles, des systèmes d'incendie ou encore des escalators quand il y en a. Bref, la pente ascendante continue pour ce lauréat de la BFM Academy 2018. Jade Francine, sa cofondatrice, était l'invitée de BFM Business il y a quelques jours.
L'ascenseur, c'était vraiment la première brique pour entrer sur le marché de la maintenance réglementée, parce que c'était ce qu'il y avait de plus frustrant pour les utilisateurs, les clients, gestionnaires, propriétaires. Et aujourd'hui, voilà, petit à petit, on a eu d'autres demandes sur les systèmes de sécurité incendie. Donc, on a fait une acquisition pour y répondre, les portes, les escalators. Donc, on peut pas aller partout dans le monde et tout faire d'un coup. Donc, on fait brique par brique. Mais c'est vrai que l'ambition et la vision initiale, ça a toujours été de devenir un acteur mondial sur le sur ce gros marché.
Tout simplement mondial. La dernière fois qu'on vous avait reçu, c'était lorsque vous alliez au Royaume-Uni, sur un marché qui était aussi très réglementé. Apparemment, vous avez transformé l'essai. Maintenant, vous allez en Asie ?
Exactement. En effet, donc on a commencé par Paris, ça a bien fonctionné. On s'est dit, bon, bah, maintenant, l'Europe. Donc, on s'est lancé sur Londres l'année dernière. Voilà, Covid, Brexit. Mais finalement, ça a été très, très, très positif côté business, réception des clients unanime. Et finalement, là, aujourd'hui, on a d'autres demandes sur le marché asiatique avec des clients qui sont prêts à nous emmener aussi avec eux.
Quel type de clients vous emmène d'ailleurs sur les marchés étrangers comme ça ?
Nous, on travaille beaucoup avec les grands groupes de l'immobilier, en particulier voilà, ceux qui ont des portefeuilles au niveau mondial.
Des promoteurs ou des investisseurs ?
On a plusieurs types. On a les propriétaires qui sont parfois des investisseurs. On a aussi les sociétés qui font du property management, donc vraiment de la gestion et qui, elles, sont présentes dans plusieurs pays. Même si on fait, par exemple en France, on fait quand même de la copropriété, du résidentiel, là où on répond, où il y a beaucoup d'attentes aussi en ce moment, c'est sur le marché de l'immobilier de bureau. Et finalement, il est concentré dans ces grandes villes dont on vient de parler.
Et vous allez recruter, mais alors je vois que vous allez recruter notamment en recherche et développement. Qu'est-ce qu'on recherche après ? C'est quoi l'étape d'après dans ce que vous allez proposer ?
Alors, comme je vous le disais, nous, il y a plein de pièces dans le puzzle. Il y a donc les pièces métiers. Donc, aujourd'hui, l'ascenseur, les escalators, les portes, les systèmes de sécurité incendie. Il y a un autre gros bloc qui est quand même tout ce qui est clim, chauffage, ventilation. Et donc, il y a cet aspect métier et il y a l'autre aspect sur la technologie où, donc, nous, on a quand même conçu des applications, des interfaces clients, on a des objets connectés. Et en fait, il faut que le métier, le software, le hardware, tout le monde se parle. Donc on recrute à chaque fois, toujours dans les trois. Et en parallèle, évidemment, des commerciaux, parce qu'il faut quand même aller vendre.
Bonjour Maïlys Gros.
Bonjour.
Alors on souhaite évidemment le même succès que ces lauréats de la BFM Academy, ce que l'on vient de voir, que ce soit Moby Travel édition 2021 ou We Maintain édition 2018. Vous venez vous-même d'être désigné coup de cœur de la fabrique Aviva, on en parle dans un instant. Et ce coup de cœur, donc, c'est pour l'entreprise que vous avez créée il y a 4 ans, qui s'appelle Circouleur. D'abord, quel est le concept, quel est votre cœur d'activité chez Circouleur ?
Alors à Circouleur, on fabrique des peintures recyclées. Mais surtout, ça nous a permis de créer la filière de recyclage pour les restes de peinture. Quand vous avez fait des travaux de peinture chez vous, la dernière fois, vous aviez...
Il restait des fonds.
Exactement. Toujours. C'est quasiment systématique. Eh bien ça constitue 28 millions de litres de peinture, de déchets, chaque année en France. Et qui n'avaient pas de solution de recyclage jusqu'à ce qu'on arrive.
Et qui finissaient vraiment dans les déchetteries, qui finissaient même dans la nature in fine, avec tous les produits toxiques que ça peut contenir.
Ah oui, alors quand c'est des déchets sauvages, ça c'est la catastrophe. Mais même quand c'était emmené vers la déchetterie, ça finissait incinéré. Ça veut dire que tout l'impact environnemental pour fabriquer ces peintures, il a servi juste à servir de combustible. Ça n'a vraiment pas de sens.
Donc vous avez créé cette filière de recyclage. D'une manière technique, comment ça se passe ? De la collecte jusqu'à la transformation en d'autres peintures, en d'autres nouvelles peintures.
Alors nous, on fait des partenariats avec les acteurs de la filière des déchets qui, eux, vont déjà collecter auprès des déchetteries. On ne rajoute pas nous-mêmes des camions sur les routes, c'est pas l'intérêt. Donc là où ils concentrent tous ces déchets sur leur plateforme, nous, on va récupérer ce qui peut être recyclé. On ne prend que les peintures acryliques, qui sont des peintures à l'eau. Et on fait tout un travail de tri et après un travail de chimie de formulation dessus. C'est vraiment le cœur de notre métier. Moi, je suis chimiste à la base et c'est vraiment le cœur de ce qu'on sait faire. La chimie qui, au service d'un impact positif et qui permet, à partir d'un mélange de vieilles peintures un peu disparates, d'arriver à une peinture super qualitative qu'on peut vendre pour les professionnels et le grand public.
Et de différentes couleurs, il y a un nuancier très très vaste de ce que vous récupérez. Est-ce que vous arrivez à en faire une vaste gamme de couleurs ? J'imagine qu'il y a un gros travail sur... On appelle ça comment ?
La colorimétrie.
La colorimétrie, voilà, pardon. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites ?
On a 15 couleurs dans notre dans nos références et c'est des couleurs qu'on a vraiment choisies avec soin. On a travaillé avec un cabinet de tendance pour vraiment être sur les couleurs qui sont dans l'esprit du moment et qui soient chic et qui fassent envie. Le but c'est pas d'avoir d'acheter des peintures juste pour nous faire plaisir ou faire plaisir à la planète, c'est d'acheter des peintures qui déjà embellissent nos murs.
Et ça se trouve où ? Quel est votre circuit de distribution ? Donc une fois que vous avez procédé à toute cette étape de recyclage et de refabrication, où est-ce qu'on peut les trouver ? Et est-ce qu'elles sont un peu plus chères que les peintures, on va dire, plus traditionnelles ?
Alors sur notre gamme grand public, on est distribué notamment chez l'enseigne 4 murs, chez des Bricots Leclerc par exemple. Et on est sur des peintures qui sont pas plus chères justement que des peintures classiques de grandes marques. On a fait un gros effort là-dessus. Notre idée aussi, c'est que faire l'achat, le geste de consommation responsable, il puisse être à la portée de tous et pas seulement d'une élite.
Et pas plus cher, donc c'est vraiment, on est vraiment dans les mêmes gammes de prix. Hein. Il n'y a pas de surcoût très 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 important.
Il n'y a pas de surcoût.
Alors vous êtes installé, on ne l'a pas dit, donc encore dans la région de... Enfin, vous êtes même à Blanquefort, c'est dans le département de la Gironde. Ce qui veut dire que vous travaillez essentiellement dans la région Nouvelle-Aquitaine à l'heure actuelle. Et est-ce qu'il y a des projets d'extension vers d'autres régions ?
Effectivement, pour l'instant, donc on est basé près de Bordeaux. Mais l'idée, c'est que nous, on veut recycler toutes les peintures de France et même d'Europe. Donc l'idée, c'est vraiment de s'étendre et d'essaimer notre modèle pour pouvoir récupérer tous ces restes de peinture qui sont inutilisés.
Ce marché du recyclage, il est concurrentiel. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont déjà sur ce même créneau que vous avez lancé il y a 4 ans ?
Pour recycler les peintures ?
Pour recycler, oui.
Pour recycler les peintures, en France, il n'y a que nous. Donc, s'il n'y a pas nous, les peintures, elles n'ont pas d'autre solution que d'être incinérées.
Et le succès qui est le vôtre depuis quelques années, les différents prix, on en parlera dans quelques instants, que vous récoltez, est-ce que ça ne donne pas des envies peut-être à d'autres ? Ou est-ce que vous avez déjà une telle longueur d'avance que ça va être compliqué, ne serait-ce que techniquement, ne serait-ce que chimiquement, de vous rattraper ?
Alors, tout le développement technique que l'on a fait, oui, il faut s'accrocher hein, pour rattraper ça. On est vraiment sur un process de formulation qui est très différent de celui pour une peinture classique, parce qu'on doit s'adapter à des choses qui sont toujours un petit peu changeantes. C'est vraiment une démarche différente.
Vous parliez du bilan environnemental. Ça, en termes de bilan carbone, est-ce que vous avez un peu chiffré ce que c'est en moins par rapport à la fabrication plus classique des autres peintures ?
Oui, le bilan carbone de notre peinture, il est divisé par 12 par rapport à celui d'une peinture classique. Mais notre impact environnemental, il n'est même pas uniquement sur cet aspect environnemental. Il est aussi, c'est un impact positif qui est aussi social, puisqu'on crée des emplois pour des personnes qui sont en insertion et des personnes qui sont en situation de handicap, et aussi un impact qui est sanitaire en faisant des peintures qui sont meilleures pour la qualité de l'air intérieur.
Et ces emplois dont vous parlez, c'est dans la filière avec laquelle vous travaillez, hein, c'est bien ça. Parce que vous-même, vous avez une quinzaine d'emplois sur le site de Blanquefort, mais on est sur des métiers de quel type sur votre site, sur le siège de l'entreprise Circouleur ?
Alors, il y a différents métiers, alors du commercial, hein, bien sûr, mais surtout, on a un gros cœur de métier de chimiste, ouais. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts là-dessus à faire, à la fois pour la formulation de nos productions, mais aussi pour la R&D, on continue à être de toujours plus innovants. Et puis, ces emplois en insertion, ils sont en principe plutôt fléchés pour les personnes qui vont faire le tri des peintures. On les forme à ce métier et ça les permet de s'insérer. Nous, on a déjà une personne qui n'est plus en insertion puisqu'on l'a embauchée chez nous.
Et les perspectives d'embauche, d'emploi, on va parler des 160 000 euros que vous avez touchés grâce à Viva. Est-ce que les perspectives d'emploi ont été multipliées par cette manne qui vous tombe depuis quelques semaines là ?
Oui, ça va nous permettre de recruter plus rapidement et d'accélérer plus vite du coup derrière.
Alors donc voilà, vous êtes, je le précise, la lauréate, une des lauréates, des 15 lauréates 2021 de la 5e édition de la Fabrique Aviva. Vous avez été élue dans la région de Bordeaux. Et ensuite, donc il y a 5 élus au niveau régional. Et parmi ces 5, il y a ce qu'on appelle le coup de cœur de la Fabrique. Et c'est vous donc qui avez été désigné coup de cœur. D'abord, qu'est-ce que ça fait ? Vous étiez, je crois, 4000 projets à la base, puis il y a eu différents filtrages. Voilà. Et vous êtes l'entreprise Circouleur qui a été élue coup de cœur. Quelle a été votre réaction quand vous l'avez appris ?
Ça a été une journée riche en émotions, ça c'est sûr. Et en fait, derrière ça, c'est extraordinaire en termes de reconnaissance. Il y avait énormément de projets hyper bien, quoi, qui sont à impact, qui sont, enfin, il y avait plein de projets formidables. Je vous invite à aller les découvrir, quoi. Et qui ont été choisis parmi tous ces projets, c'est une très belle reconnaissance. Et derrière, c'est un apport financier qui change la donne, qui est vraiment très important.
Les 160 000 euros dont on parlait, est-ce que c'est, il y a de nombreuses en France initiatives, des concours de start-up, des soutiens. On pense évidemment donc à la fabrique Aviva, mais il y a aussi le réseau Entreprendre, il y a aussi le réseau Initiative. Est-ce que c'est important quand on est comme vous, jeune créatrice d'entreprise, cette labellisation, et quelles sont les portes que ça ouvre quand vous avez ce tampon là dans votre cas de la fabrique Aviva?
Oui, on a essayé nous aussi labelliser Green Tech Innovation récemment, et oui, c'est important, c'est vraiment une marque qui permet de dire oui, c'est pas du pipeau, en fait, ça a été vérifié, il y a des gens qui sont allés creuser vraiment dans les détails et qui disent que oui, c'est quelque chose qui est légitime et qui a vraiment un bel avenir devant lui.
Eh bien, félicitations donc pour ce prix coup de cœur de la fabrique Aviva. C'était la 5e édition. Longue vie à Circouleur, c'est un très beau projet. On a tous et tout dans nos caves ou dans nos greniers des fonds de peinture. On ne savait jamais quoi en faire. Et ben là, il y a une vraie filière qui a été mise en place grâce à vous. Donc bravo à Circouleur. Merci d'avoir été l'invité de la France à Tout pour réussir en ce mois de juillet. Et nous, eh bien, on se retrouve le week-end prochain pour un tout nouveau numéro donc de l'émission. Vous savez, vous nous retrouvez bien sûr en télévision, en radio, en direct sur les smartphones et autres tablettes, mais aussi sur la nouvelle plateforme de replay du groupe Altice. Elle s'appelle RMC BFM Play. Je vous donne rendez-vous donc dans une semaine. D'ici là, très bon week-end, très belle semaine, peut-être même très belles vacances, et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.